Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Bientôt, dans 18 jours, nous pourrons à nouveau aller au cinéma. J'entends déjà les cinéphiles grogner d'impatience, mais l'on pourrait aussi tous prévoir une telle soirée pour soutenir les salles obscures, du soleil, de la lumière jusqu'à l'éblouissement. C'est peut-être le fil rouge de votre émission Vivante Église spéciale confinement de ce jour. Le soleil du grand sourire généreux d'Omar Sy dans Intouchables d'Éric Toledano, la lumière de ce Gandhi de l'Ariège, comme commencent à l'appeler certains, dans Pierre Rabhi au nom de la terre de Marie-Dominique Dessling, l'éblouissement de la résurrection dans Jésus de Montréal de Denis Arcand, bref, de quoi s'en mettre plein les mirettes. Le grand écran, c'est donc votre émission de ce vendredi matin, rendez-vous de tout ce temps de confinement. On fait avec l'actualité qui est la nôtre en ce moment. On trouve des parades et on essaye de faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais on s'en plaint pas. C'est l'occasion pour nous de parler de beaux films et puis de nous donner des idées pour le week-end. Premier film, oui pardon, et nous sommes avec nos deux chroniqueurs, Paul Dimard, toujours intervenant cinéma pour les Coteaux Pays et Centre Jésuite dans le Sud-Ouest. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel.
Et Louis-Marie Soler, toujours producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi à 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Louis-Marie, ça va, vous comptez les jours, vous vous êtes fait des croix sur le mur de votre chambre?
Oui. Sur le calendrier, bien sûr.
Non mais sans blague, pour un cinéphile comme vous, c'est dur, non, de pas aller au cinéma?
Ah, c'est difficile, oui, c'est difficile parce que le cinéma, c'est bien au cinéma. C'est bien au cinéma parce que le fait de le regarder sur un petit écran, quelle qu'en soit la taille, parce que maintenant on peut avoir dans les domiciles des écrans qui sont de grande qualité, malgré tout, le cinéma c'est aussi un moment où on partage quelque chose. C'est aussi ce moment que je préfère, c'est celui où on va s'installer. Alors maintenant, c'est un peu biaisé parce que dans certaines salles, on est obligé de s'installer à une place qu'on choisit avant. On pouvait regarder la salle et choisir l'endroit où on allait s'installer, s'asseoir, parce qu'on avait envie d'être là, à côté des gens ou pas, plus ou moins loin de l'écran. Et surtout, il faut être bien placé par rapport aux enceintes.
Allez, premier film, Intouchables, de Quarrière, c'est notre catégorie, donc, ce film donc, d'Éric Toledano.
Et Olivier Nakache, il y a deux réalisateurs. Et
Olivier Nakache, pardon, c'est vrai.
Ils sont deux.
On écoute la bande-annonce.
Je suis venu chercher mon papier par rapport au...
Entrez.
Vous êtes cynique.
Comment vous vivez l'idée d'être en assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres?
Ça va, merci, et vous?
Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler?
Vous en avez de l'humour.
J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas deux semaines. C'est un truc de ouf, là. Non, mais vous avez fini de jouer, non?
Eh, mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Et la jupe, elle est où, là?
Non, ça, c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir.
Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là.
Voilà, c'est bon comme ça?
Attends. Bon appétit.
Eh, s'il vous plaît. Oh,
C'est qui ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état.
Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large?
Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où?
Respirez un peu.
Ça y est, les voilà. 100 euros que j'ai mis dans le vent. Tenez.
Voilà pour la bande-annonce de ce film, excellent film. L'histoire, on la devine, c'est l'histoire de la rencontre de deux hommes qui ne devaient pas se rencontrer d'une certaine manière. Donc Philippe, qui est un riche aristocrate, qui a eu un accident de parapente et qui est donc tétraplégique, hein, c'est ça, tétraplégique, qui cherche à engager un aide à domicile et il tombe de manière, on va dire, inopinée, sur un jeune de banlieue qui s'appelle Driss, tout juste sorti de prison. Et puis il va choisir donc de l'embaucher, et deux univers vont se télescoper, apprendre à s'apprivoiser et donner naissance à une amitié plus qu'inattendue. C'est un très beau film, c'est un très beau film parce qu'on l'a choisi, mais non seulement il est beau, mais en plus il est fort drôle. L'histoire, allez Paul Dima, qu'est-ce que vous nous en diriez de plus?
Alors au-delà de ce que vous avez déjà dit, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux caractères et deux milieux sociaux qui sont vraiment à l'extrême opposé. Et puis progressivement, va se créer un climat d'attention réciproque, d'amitié et d'aide réciproque surtout. Et alors qu'au début, Driss venait juste pour avoir des papiers certifiant qu'il était à la recherche d'emploi et qu'il pouvait continuer à toucher les ascédiques. Et puis contre toute attente, ce monsieur, dans un immeuble extrêmement gigantesque et cossu, est frappé par la spontanéité de ce personnage-là, son côté imprévisible.
Sa joie de vivre. Hein.
Et ben, il dit, ça va au moins me distraire. Quoi. Et il saute le pas et dit, eh ben, je vous embauche.
Alors il faut dire, Louis-Marie, que je sais que vous n'aimez pas les films qui sont inspirés d'une histoire vraie, mais c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. Pour une fois, ça vous va ou pas?
Non, mais ce n'est pas que je n'aime pas les films inspirés d'une histoire vraie. Maintenant, ça devient forcément un gage de qualité qu'on met en tout début de générique.
C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est pour ça qu'on l'a choisi.
Mais après, ça dépend ce qu'on en fait. Là, c'était plutôt casse-gueule quand même. Hein, parce que l'idée au départ, hein, vous la connaissez, c'est l'histoire de Philippe Pozzo di Borgo, donc qui reste Philippe dans le film, et puis de Abdel et Driss, par contre, ils ont changé le prénom. Et en fait, c'est une histoire qui s'est passée réellement, et ça a inspiré donc Éric Toledano et Olivier Nakache, qui avaient vu un documentaire concernant ces deux hommes à la télévision, et ils se sont dit qu'ils pouvaient faire un film là-dessus. Toledano et Nakache sont spécialistes de ce genre de comédie.
Ouais. C'est-à-dire, mon cher Watson, vous pouvez nous donner d'autres exemples?
Bien, il y a Le sens de la fête, plus récemment, qu'ils ont fait après Intouchables. Et avant, il y avait Tellement proche et nos plus belles années. Alors, je me mélange parce qu'il y a... Nos jours heureux, pardon. Parce que je mélange avec les titres d'autres films, oui, où ce sont le plus souvent des films choraux, où il y a beaucoup de personnages et des familles, des gens aux caractères différents et qui ont toujours des moments qui sont ou drôles ou dramatiques. C'est ce qui arrive là-dedans. Là, c'est l'association, comme l'a souligné Paul, de deux milieux et de deux personnages qui, a priori, n'auraient jamais dû se rencontrer. Et ce qu'ils font dans le film et ce qui fait le charme de cette comédie, c'est que justement, l'un et l'autre ne se départissent pas
de ce qu'ils sont.
De ce qu'ils sont et de l'humour qu'ils ont chacun, d'une certaine façon. Ils n'ont pas le même humour, mais ça marche pas mal.
Voilà, on en rêve tous de telles amitiés, hein, aussi dans le fond. Ça me fait penser à un autre film dont on avait parlé, Green Book, où il y a deux hommes se rencontrent comme ça. Ils n'auraient pas dû se rencontrer. Il y a comme un petit rêve secret pour chacun de nous, peut-être. On va écouter un extrait. Alors, ils sont à l'opéra. C'est Philippe qui emmène Driss à l'opéra, à la fois parce qu'il a besoin de lui et probablement aussi pour lui faire découvrir l'opéra. Ça parle d'amour, mais pas que.
Je suis en deuil. Je pleure. J'ai peur.
Un peu de fraîcheur, Seigneur. Oui, c'est ça, la Vierge folle. Vous êtes incollable.
Ah, ça me fait plaisir.
Pardon, excusez-moi, j'étais là avant, ici.
Léonore.
Je suis content. Ah si, je suis content.
Oh, la pipelette. Crotiateur, en fait. Arrête plus.
Je vous embrasse.
Tout le monde s'embrasse, tout le monde se lèche l'oreille. Très bien. Bon, alors?
Bah alors, il y a du bon et du moins bon.
Et quoi, le bon?
53 kilos.
53 kilos, c'est bien. Sauf si elle fait 1 mètre.
Et le moins bon, elle veut une photo.
Et alors?
Bah alors, il est marrant, lui.
Bonsoir, messieurs. Vos billets, s'il vous plaît.
Bonsoir.
Alors, c'est juste là.
Très bien.
Bonne soirée.
Bonne soirée à vous. Si vous nous cherchez, on est là. On bouge pas, enfin, surtout, oui.
Attendez, qu'est-ce qu'elles cherchent les femmes, à votre avis?
Je sais pas. La beauté, le charme, l'élégance.
Mon cul, elles cherchent l'oseille, la sécurité. Demandez-lui à lui, là. Et là, vous, vous avez des arguments.
Je suis peut-être naïf, mais j'espère que je peux séduire encore avec autre chose que mon compte en banque.
Attendez, elle passe 6 mois à lire vos poèmes à la mort moineux, là. Et elle kiffe. C'est inoriginal, c'est sûr. Elle peut très bien s'en foutre du fauteuil.
Ça, c'est vrai.
Puis là-bas, dans le Nord, les mecs, ils cognent à force de boire. Avec vous, elle verra qu'elle risque rien. C'est pragmatique, ça, non?
Je sais pas si... Ouais.
Donc la photo, c'est un bon test. Si elle renvoie la sienne, ça veut dire qu'elle est d'accord pour aller plus loin. Après, vous, vous pouvez envoyer une photo de vous avec le fauteuil, mais qu'on voit pas trop. Vous êtes pas obligé de lui envoyer une photo, genre Téléthon, avec le filet de bain, avec une sale tête.
C'est vrai, c'est vrai.
Pas bien, il va plus bien du tout. Ouais, putain. C'est un arbre. C'est un arbre qui chante. C'est de l'allemand. Quoi, chute? C'est en allemand. C'est de l'allemand en plus. Vous êtes taré. Oh, la galère. C'est-à-dire combien de temps?
4 heures.
Oh, putain.
Intouchable.
Ça dure 4 heures.
Ça dure 4 heures. Alors, donc, j'aurais dû l'introduire autrement. Toutes mes excuses auprès des auditeurs. Voilà, ce Philippe cherche l'amour. Et à l'occasion donc, de cette sortie à l'opéra, vous avez compris, il avait une femme au téléphone. Et c'est aussi, voilà, Driss... ça devient vraiment un intime, hein. Il lui confie ses secrets et il joue un rôle dans la vie de ce Philippe. Donc c'est très drôle, enfin ça fait peut-être pas rire tout le monde, mais nous on avait du mal à se retenir. Paul, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce film? La fin de l'histoire vraie le dit, mais cette fois on révélera pas ce secret qu'on découvre à la fin du film. Mais chacun grandit par l'autre en fait.
Oui, tout à fait. Et cette scène en est très révélatrice, c'est-à-dire que Philippe veut faire découvrir à Driss l'opéra dans lequel il n'a jamais mis les pieds ni écouté un air d'opéra. Et alors avant que l'opéra commence, il parle d'un courrier parce qu'il écrit des lettres à une certaine
Éléonore.
Mais il n'ose pas trop la rencontrer. Et Driss lui dit, allez-y, envoie une photo avec, bon, on voit un bout de fauteuil, mais tu le fais pas façon Téléthon en bavant et tout ça. Donc, et puis, l'opéra commence. Et alors là, il faut s'imaginer, ils sont dans une loge très, très bien placée et tout, et des gens très sérieux.
Il faut dire que le personnage qui s'invente est déguisé en arbre.
Oui.
Qui s'avance alors, est déguisé en arbre.
Voilà, il est déguisé en arbre. Alors là... Driss s'écroule, il dit un arbre qui chante, ils sont complètement... Enfin, ça le...
Et en plus en allemand.
Et puis en plus en allemand. Et alors lui, il éclate de rire, et il y a des regards réprobateurs tout autour.
Mais alors juste Paul, pourquoi c'est un bon film?
Alors c'est un bon film, parce qu'il y a une vraie rencontre humaine, à la fois chacun reste ce qu'il est, comme on disait tout à l'heure, mais en même temps il y a une vraie rencontre, et l'un aide l'autre. Et pas par compassion, mièvre ou choses comme ça, c'est parce qu'il se rend compte qu'il s'estime, qu'il se vanne, qu'il se supporte, qu'il voilà, c'est une très très belle rencontre. Un peu casse-gueule, parce qu'on n'a pas l'habitude de rire, mais c'est très bien monté, du handicap. Et là, on rit volontiers et pas de façon ni méprisante ni malsaine.
Louis-Marie, pour finir, c'est un film qui a très bien marché, qui a été un gros succès. Omar Sy a été primé pour ça, César du meilleur acteur et Globe de Cristal du meilleur acteur, les deux en 2012. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du succès de ce film?
Le succès au box-office, tout le monde le connaît. Hein. Le film a rencontré les spectateurs, pratiquement 20 millions d'entrées. Le seul film qu'il n'ait pas réussi à battre, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Après, c'est le film français qui a le mieux marché à l'étranger, qui a fait le plus d'entrées, qui a rapporté le plus d'argent. Mais pour revenir à ce qui fait le succès du film, c'est incontestablement le duo d'acteurs. Mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. En 2012, maintenant, Omar Sy est une grande vedette. À l'époque, il ne l'était pas. C'est ce film qui va le propulser. Il était connu surtout des téléspectateurs parce qu'on le voyait sur Canal+ faire le service après-vente des émissions avec Fred, Omar et Fred. Et c'est la première fois qu'on le met avec un partenaire, et son partenaire c'est François Cluzet, qui lui est un acteur expérimenté. Et c'est ce qui rajoute aussi à la qualité et à l'intensité du film, c'est qu'il y a quelque chose de différent pour les deux personnages, comme il y a quelque chose de différent pour les deux interprètes. Et en fait, Cluzet se comporte un peu comme un grand frère avec Omar Sy, et il le tire, et Omar Sy y va. Il y va à fond, et c'est ce qui fait que le couple fonctionne extrêmement bien. Ils sont parfaits tous les deux.
Et on aurait pu passer bien des extraits qui nous auraient bien fait rire. On va faire une première pause musicale. Louis-Marie, l'introduction ?
Ah ben c'est la bande originale du film qui a été composée. Alors évidemment, on n'a pas pris un extrait des moments où Driss danse. On se souvient de Earth, Wind & Fire et September. Mais là, c'est Ludovico Einaudi qui a composé cette très belle partition essentiellement au piano.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, votre émission cinéma du vendredi, spécial confinement. Hélas, pour l'instant, cinéma à la maison, mais bientôt, on pourra retourner dans les salles obscures. Deuxième film qu'on a choisi, c'est donc un film intitulé, c'est plutôt un documentaire, dans notre catégorie Le Monde d'après, Pierre Rabhi au nom de la Terre, documentaire de Marie-Dominique Dessling. On va commencer par écouter tout de suite la bande-annonce.
Je suis paysan. Et je suis fier d'être paysan. Parce que les paysans, c'est ceux qui nourrissent la terre et nourrissent les humains. Donc il faut bien comprendre que ce que nous faisons en soignant la terre et en aimant la terre, c'est une action et une mission la plus belle qui soit.
L'agriculture industrielle était probablement la manière la plus désastreuse que l'homme ait trouvée pour produire sa nourriture. À l'époque où Pierre le disait, ça paraissait un peu farfelu, mais aujourd'hui c'est tellement évident.
La nourriture aujourd'hui est tellement toxique que quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance.
Ça c'est sûr.
L'agriculture écologique, c'est renouer avec cette force de la vie et l'utiliser à des fins de survie.
Notre souci, c'était dès le départ de cultiver ce domaine en agriculture biologique. Et Pierre a été la première personne qui nous a dit « la terre, c'est l'avenir ».
Quand on parlait de la terre, on parlait de la même façon.
maintenant, on est dominé par cette espèce de violence du capitalisme et on doit légitimement se protéger. Mais je ne crois pas du tout à la lutte qui serait simplement dans les éclats de colère. Je crois que la lutte aujourd'hui, ça doit être dans « je fais ». Quand j'apprends un paysan à soigner la terre, pour moi, c'est une victoire. Et quand je parle au nom de la terre. Je parle pas seulement au nom de Pierre Rabhi.
Voilà, Pierre Rabhi au nom de la terre, ce documentaire donc à découvrir ou qu'on vous propose de découvrir ce matin. C'est l'occasion surtout de découvrir ou de redécouvrir la figure de Pierre Rabhi. J'étais impressionné de découvrir un reportage de France 2 dans le 20h, je crois, qui le présentait comme peut-être le, enfin pas peut-être, je vais y arriver, comme ce nouveau Gandhi français. En tout cas, preuve de sa renommée. Il donne encore 50 conférences par an et pourtant il est né en 1938. Nicolas Hulot dit de lui que c'est un homme qui l'a profondément inspiré. On découvre donc cet homme. Je le présente rapidement et puis je vous laisse compléter. Donc Pierre Rabhi est d'origine maghrébine. Il est né en Algérie. Il part en exil en fait en France parce qu'il est confié à un couple de Français par ses parents pour des raisons économiques. Et lui, comme son père, font le choix. Un choix radical, en tout cas lui, de quitter le monde industriel pour choisir quelque part d'entrer en résistance, et ce assez jeune avec sa femme. Donc ils vont s'installer en Ardèche et c'est un des pionniers de l'agriculture biologique, ou en tout cas de la permaculture, agroforesterie, etc. Paul Dima, qu'est-ce que vous rajouteriez?
On l'entend dès les premiers mots de la bande-annonce. Son combat, c'est pas un combat de violence ou de révolte. Son combat, c'est de faire, et de faire faire, et de proposer des solutions qui sont accessibles, surtout aux plus pauvres, aux plus petits, et au service, c'est un leitmotiv tout le temps, au service de la vie et de la terre pour la vie et la vie des hommes. Et il a vécu toute sa vie en cohérence avec ce principe-là. Il fait toujours son jardin. Et en même temps, il intervient dans des grandes assemblées internationales. Il est conseiller auprès des hautes instances pour l'alimentation, etc. Mais il a toujours les deux pieds sur la terre et dans la terre. Et il cultive la terre alors que la plupart des produits chimiques qui ont été employés dans l'agriculture industrielle tue la terre. Et ça, c'est son grand combat.
Et c'est un des pionniers en la matière. Alors ce qui est fou quand on le voit, et d'ailleurs c'est l'histoire de sa vie, c'est l'effet de contraste, j'ai trouvé, à la fois entre les personnalités qui se succèdent, et puis lui, on le voit dans le jardin, il est avec ses bretelles et son bleu de travail, et on a l'impression qu'il fait juste son potager, lui, Marie.
Mais c'est ça, il fait son potager. D'ailleurs, un de ses amis lui demande « Mais pourquoi continues-tu à travailler la terre ?» Et il a dit « Mais si je ne travaille pas ma terre, je meurs, parce que sans elle, je ne mange pas. » Et tout est dit, là. Et ce qui est passionnant avec cet homme, c'est qu'il a eu cette vision au niveau de l'agriculture et de l'agroécologie assez tôt. Il n'a pas été le seul. Même dans les années 60, il y en avait d'autres comme lui, mais lui a réussi à parler. C'était cette espèce de parole sage. On le compare à Gandhi, c'est ça. Il est paysan, certes. Il a été ouvrier spécialisé. Il a toujours été au bas de l'échelle. Hein. Il l'explique bien dans le film. Il n'avait pas le choix, il n'avait pas fait des études. Mais s'occuper de la terre, s'isoler, parce qu'il le dit aussi, il est parti avec sa femme Michel, vous en avez parlé, Emmanuel s'est installé en Ardèche. Ils ont vécu 13 ans dans cette ferme sans électricité.
Très modestement, ouais.
Sans électricité, avec 30 mètres cubes d'eau. Ça fait peu. Donc c'était une vie austère, difficile. Ils ont eu des enfants et... Malgré tout, la culture est là, la culture de la terre, mais la culture aussi, celle qui forme l'esprit. C'est une personne qui lit, c'est une personne qui écrit.
Qui écrit, oui, je cherchais justement des noms d'ouvrages, mais j'en retrouve pas.
Il est penseur, et ce qu'on aime, et ce qu'on voit dans le film quand il donne des conférences, c'est que son auditoire attend ce qu'il dit, mais aime aussi sa façon de le raconter. il sait raconter. C'est aussi un conteur.
Alors on va écouter un autre extrait. C'est pas un extrait du documentaire parce qu'il n'y en avait pas de disponible, mais ça dit en partie sa pensée. Et puis on entend bien justement quelqu'un qui dit des choses en fait fortes, mais de manière très simple et un peu comme un conteur, comme disait Lou-Marie.
Tout ce que j'ai affiché moi dans ma chambre, c'est le discours de Seattle, du chef indien Seattle, répondant aux Américains qui voulaient leur acheter leur territoire, etc. Et c'est sublime ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est sublime, ça devrait être enseigné partout. Cette puissance de la modération, de la simplicité, du leurre dans lequel nous sommes, selon lequel c'est par l'argent qu'on a du bonheur. Mais non, l'argent n'apporte pas le bonheur, il apporte bien sûr. Parce qu'en fait, on est tous dans cette contradiction. Je ne suis pas d'accord avec la dictature des gagneurs d'argent. Je ne suis pas du tout d'accord. Sauf que je les nourris chaque jour. Chaque jour, je prends ma voiture, je leur donne des sous. Donc, quand je vais à la pompe, je donne des sous à je ne sais pas qui, à Esso, à je ne sais pas, à je ne sais quel truc. On est donc dans ces contradictions-là. Et aujourd'hui, le grand problème, c'est comment réduire ces contradictions. Parce qu'on ne pourra pas les éliminer. Il faudra bien qu'on circule, etc. Et en plus, j'ai rien contre la technologie en soi, si elle correspond véritablement à une amélioration réelle de la condition humaine. Mais à partir du moment où la technologie devient encore objet de profit, de malhonnêteté, d'accaparement, de dictature, à ce moment-là, elle sert finalement à des pulsions négatives de l'être humain. Aujourd'hui, le problème, c'est que la question est de savoir comment donner à des pulsions positives de l'être humain les outils de façon à ce que ce positif puisse s'épanouir.
Voilà pour l'extrait de la pensée de Pierre Rabhi. Vous l'avez dit, mais on peut le redire. On l'entend au début de la bande-annonce. C'est un homme qui a aujourd'hui un rayonnement international et qui s'y est mis, on va dire, assez tôt. En tout cas, ça fait déjà quelques années qu'on l'appelle à l'étranger pour avis et conseils. Il a entre autres contribué à créer, mais voilà, je ne retrouve pas mes fiches, vous allez m'aider. Paul Dima, vous vouliez commenter ses voyages en Afrique?
Oui, par exemple, au Burkina Faso, on l'entendait en tout début de la bande-annonce, où on entend la traduction en parler local. C'est un homme de pensée, mais de mise à l'action aussi. Et il prêche par l'exemple et par l'action de transformation qu'il fait. Il prouve, par exemple, à des agriculteurs qu'ils peuvent, de leur milieu agricole desséché, érodé par le soleil et par la pluie, il dit « là, on va pouvoir planter ». Et les gens ils disent « mais avec quoi ?» Il prend la terre, il dit « avec ça, mais on va la faire vivre ». Et ça marche. Et il a une force de conviction par l'exemple, parce que ce qu'il dit, il le fait, et ce qu'il fait, ça marche. Et c'est la meilleure des démonstrations. À un niveau autre, en Roumanie, par exemple, il a été demandé par des monastères orthodoxes qui étaient soucieux de faire une action qui profite au monastère, mais en même temps à la population locale, les chrétiens orthodoxes, assez minoritaires, et pour qu'ils puissent survivre dans leur pays. Eh bien, il met en place tout un plan d'agro-alimentaire pour que ils arrivent à cultiver et à pouvoir rester sur place et vivre bien de ce qu'ils font. Et là, il est conseil auprès des communautés orthodoxes pour une agriculture qui respecte la nature, mais qui respecte les humains.
Et on le voit aussi avec un philosophe comme Edgar Morin.
Ah oui, tout à fait.
On le voit aussi avec Cyril Dion, dont on avait parlé récemment, co-auteur de ce film Demain, film documentaire dont on a parlé. Il a été, donc, pour rappel aussi, avec Cyril Dion, au début du mouvement des Colibris. J'ai même noté aussi qu'il apparaît sous la caméra de Colin Serrault pour un autre documentaire qu'on aurait pu choisir, qui a eu beaucoup de succès, Solution locale pour un désordre global. Louis-Marie, qu'est-ce que vous rajouteriez à propos de ce film ? Dans la facture, faut pas s'attendre à un grand film.
Dans la forme, oui, c'est un film qui a une forme très classique, parce que de toute façon, on l'a bien compris, ce qui est important pour la réalisatrice.
Classique, vous êtes sympa, c'est simple, voire très sobre.
Non, mais c'est classique dans le sens où on privilégie le fond à la forme. C'est C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il y a des interviews de Pierre Rabhi qui alternent avec des témoignages, avec des scènes filmées à travers le monde. On le voit donc donner des conférences ou aussi sur le terrain, débattre avec d'autres. Et on peut donc effectivement facilement découvrir ce qu'est ce personnage et le voir combien il est passionnant. Après, ce qu'on peut regretter, c'est que les gens qui sont déjà convaincus, ils auront une pierre de plus à leur édifice. Ceux qui ne le sont pas vraiment, il y a certains moments qui sont peut-être un peu difficiles et compliqués. Quand j'entends difficile, techniquement,
un peu aride.
Il y a des choses qui ne sont pas évidentes à comprendre. Et on peut passer à côté en se disant, oui, il faut y aller avec délicatesse, prendre juste ce dont on a besoin, mais... Oui, mais d'accord, mais oui, bon, on le fait comme ça, mais c'est sûr que ça va marcher, et c'est sûr que ça va marcher avec tout le monde. Quand on est un peu indécis, on risque de rester entre deux.
Paul, on s'arrête là ou est-ce qu'il vous reviendrait cette anecdote qu'il cite dans le documentaire quand il travaille à couper du bois avec un ami et qu'il contemple le ciel et la chute de cette histoire qu'il cite, semble-t-il, souvent. On peut peut-être finir par ça. Marie Solaire.
Oui, il raconte justement, disait que son... Oui. Sa maison était très isolée. Il disait que c'était compliqué de se chauffer parce qu'en Ardèche, il fait froid. Donc, heureusement, dit-il, il y a des bois autour de chez moi. Puis finalement, j'ai échangé avec un voisin. Je lui donnais un coup de main à rentrer son bois. Il me donnait un coup de main à rentrer le mien. Et un jour, on avait travaillé toute la journée. C'était difficile. Et arrive la fin de la journée, la fin du jour, ce moment où tout devient calme. Les oiseaux s'arrêtent. Il insiste sur le chant des oiseaux. Et au moment où le soleil commence à disparaître et on voit rougeoyer...
Et il insiste sur le silence.
Sur le silence, et on voit rougeoyer l'horizon, un très beau paysage, quelque chose qui lui coupe le souffle. Et là, à ce moment-là, il se tait, puisque tout le monde se tait, il se tait. Et au moment où il sent que son voisin va parler, alors il lui prend la main, lui touche le bras... Il regarde, il l'invite à regarder le paysage, à profiter de la beauté du paysage.
Il lui demande « qu'est-ce que tu vois ?»
Et l'autre, il dit « qu'est-ce que tu vois ?» Oh, on a bien fait d'Hystère de Bois.
Voilà, et c'est aussi, et peut-être, et d'abord, un sacré poète. Ça me fait penser à une expression du pape François qui parle des poètes sociaux dans Fratelli Tutti, ceux qui changent et qui transforment réellement le monde. Cette encyclique sociale qui vient de paraître et dont on parle un peu à cette antenne. On va faire une deuxième pause, et puis on vous retrouve pour parler du dernier film, chef-d'œuvre spirituel, en tout cas c'est la catégorie, Jésus de Montréal, de Denis Arcand. Vous pouvez introduire la pause musicale, mon cher.
Mais justement, c'est pour introduire le film.
C'est beau.
plaisance. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma en ce vendredi de confinement, avec toujours Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission de cinéma de cette radio, n'oubliez pas, l'ouvreuse, mercredi 19h, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs et Centres Jésuites dans le Sud-Ouest. Jésus de Montréal, donc de Denis Arcand, c'est donc votre choix, notre choix pour le chef-d'œuvre spirituel de cette semaine. Je vais vous laisser, mon cher Paul Dima, nous raconter cette histoire et peut-être aussi par la même occasion la manière dont a été construit ou imaginé ce film.
Alors, cette histoire se passe dans un haut lieu spirituel de Montréal, en haut du Mont-Royal, le sanctuaire Saint-Joseph, où un prêtre, le père Leclerc, est directeur et a mis en place et écrit depuis plusieurs années une Passion du Christ, mais qui, au fur et à mesure des années, rencontre moins de succès au point qu'il n'y a plus beaucoup de personnes à venir le voir. Et alors, il fait appel à un jeune acteur, metteur en scène, Daniel Coulombe, pour lui demander de remettre un peu de vie là-dedans. Il lui donne un peu carte blanche. Et l'histoire, c'est que ça se passe au-delà de ses espérances. C'est-à-dire que ce jeune metteur en scène recrute lui-même des acteurs. Alors, un qui fait du doublage de son porno, une actrice qui fait des spots publicitaires, mais en a marre, pour de la bière et tout. On lui demande d'avoir d'être jolie et de se trémousser. Et elle en a marre de sa vie. D'ailleurs, tous ceux qu'il contacte sont des gens qui ne sont pas heureux de la façon dont ils vivent. Et il les invite. Alors, c'est là où un parallèle commence à se faire entre la Passion du Christ, ce jeune metteur en scène, et le message transmis par la Passion. C'est-à-dire que les acteurs progressivement vont rentrer dans l'histoire, pas simplement comme un rôle à jouer, mais ils s'impliquent de plus en plus. Et on voit à travers ce Denis, Jésus appelant ses disciples, d'une certaine façon, et mettre en place une passion qui, de fait, rencontre un succès énorme. Ils font une sorte de déambulation dans les jardins du Mont-Royal avec les différentes stations qu'ils jouent et les gens sont très, très pris par l'émotion. C'est un Jésus qui tout d'un coup se met à leur parler et un évangile qui fait choc. Alors qui fait choc aussi pour le curé recteur qui se sent dépassé et avec une remise en cause un petit peu de l'image de l'Église. Alors, on est en 88-89.
C'est juste après la Soft Revolution au Canada.
Ouais,
c'est...
au Canada, où l'Église est un peu remise en cause par son côté de voilà, tout contrôler, tout diriger.
Louis-Marie, c'est donc un film qui est sorti en 1989. Qui a été largement primé, hein, prix du jury Festival de Cannes, prix du jury œcuménique de ce même festival, et on pourrait citer d'autres prix. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Denis Arcand, le réalisateur ?
Denis Arcand, c'est un personnage important dans le cinéma canadien. Il a eu une partie de sa carrière où il était très engagé. Il a réalisé beaucoup de documentaires qui parlaient de la façon dont on gouvernait le Canada, l'antagonisme entre les deux langues aussi, la façon d'envisager la culture et le milieu du travail. Et puis après, il est passé aussi au film de fiction. Et sans doute celui qui l'a rendu célèbre auprès du grand public, il était déjà connu au Canada, hein, célèbre pour son activisme. Au Québec, bien sûr. Et ce qui l'a rendu célèbre, qui a dépassé les frontières du Québec et plus largement le monde entier, c'est Le Déclin de l'Empire américain. Le Déclin de l'Empire américain...
Et puis un autre film que les gens doivent connaître, Les Invasions barbares aussi.
Qui est la suite, qui est la suite qu'il a réalisée plus tard, puisqu'en fait, l'histoire de ces personnages, on le retrouve dans trois films. C'est une trilogie hein, qui est finie par... je ne me souviens plus du titre du dernier film, mais où il... C'est l'âge des ténèbres, pardon. Et donc, dans cette trilogie, le déclin de l'Empire américain, en fait, il fait témoigner des personnages, mais c'est amené de très belles façons. C'est très adroit. Sur le papier, c'est très simple. C'est-à-dire que c'est quatre couples, des amis, qui vont manger ensemble dans le déclin de l'Empire américain. Les filles s'en vont à la piscine, il me semble, faire leurs exercices. Et les hommes préparent le repas. Et après, tout le monde... Alors, de chaque côté, on discute. Et puis après, on va discuter tous ensemble. Voilà à quoi ça ressemble. Mais c'est la façon dont les personnages parlent et ce dont ils parlent qui est particulièrement réussi. Et alors, justement, quand il écrit... et qui décide, ça doit être 2-3 ans après avoir fait le déclin de l'Empire américain, qui décide de faire Jésus de Montréal, là aussi, il n'a pas peur de s'attaquer à des choses compliquées que finalement il arrive à montrer de façon simple.
Allez, on va écouter un extrait, et puis je vous laisserai commenter après.
Par la publicité.
J'imagine que c'était un mal nécessaire. Ce qui m'a enragé, c'est la manière dont ces gens-là traitaient les acteurs.
Quand vous êtes venu me chercher, moi, je montrais mon cul pour faire vendre de la lessive ou de la bière. Et tout le monde était persuadé que c'était ce que j'avais de mieux à faire, étant donné la qualité du cul en question.
Voilà, ça, pardon, c'est ce qu'on aurait dû passer comme bande-annonce. Je m'en mêle les pinceaux, à force d'être confiné, je déraille. On va écouter l'extrait lancé. En l'occurrence, c'est donc après la résurrection. Les acteurs, donc les personnages, parlent de la résurrection de Jésus, mais d'une manière particulière.
Peu à peu, beaucoup furent convaincus qu'il était là. Son corps avait changé. Personne ne le reconnaissait jamais au départ. Mais ils finissaient tous par croire qu'il était présent au milieu d'eux. À part Pierre et Jean, ce n'étaient même pas les disciples d'autrefois, mais d'autres. Paul le pharisien, Barnabé, Étienne, et puis des étrangers, des Grecs, des Romains. Leur conviction était si profonde qu'ils étaient prêts à mourir pour elle. Ils furent crucifiés à leur tour, décapités, lapidés. Ils demeuraient inébranlables. Jésus avait vaincu la mort et il les attendait dans son royaume. Ils incarnaient l'espoir, le sentiment le plus irrationnel et le plus indéracinable. Le mystère de l'espérance qui rend la vie supportable, perdue dans un univers énigmatique.
Il appartient à chacun de juger le moment venu et de choisir les voies du salut. N'interrogez personne d'autre que vous. Il faut se fier à soi-même, avec humilité et courage.
Comblez toutes les failles, toutes les fissures qui existent entre vous et les autres. Aimez, craignez, suppliez. Marchez avec eux.
Au fond, notre vie est très simple. Elle ne devient d'une complexité insurmontable que lorsqu'on pense uniquement à soi. De l'instant où on ne pense plus à soi, mais où on se demande comment aider les autres, la vie devient parfaitement simple.
Jésus est vivant. Nous l'avons rencontré.
Voilà pour l'extrait qui nous aide à rentrer un peu plus dans ce film. Paul Dimant.
On entend là les réflexions des acteurs qui interrogent les spectateurs. C'est-à-dire que c'est du théâtre qui... Ce film une mise en scène qui interroge ceux qui écoutent. Ce n'est pas simplement un récit de la passion, c'est un récit de la passion qui invite à une conversion ou un changement de regard. Et dans la dernière partie du film, il y a une bousculade parce que la pièce est interdite. Ils veulent continuer à la jouer au moins une fois. Et puis, il y a une bagarre parce que les gens ne veulent pas qu'on arrête le spectacle. Et la croix sur laquelle est crucifié Denis, qui joue le personnage du Christ, tombe. Et il est emmené en ambulance. Il tombe dans le coma. Il va dans un autre hôpital. et il va mourir. Mais entre les deux, il y a dans le métro une scène où il interpelle les passants pour leur parler de qu'est-ce que c'est que la vie avec le Christ et qu'est-ce que c'est que le message de la Bible, de l'Évangile. Et c'est un peu ces réflexions qu'on entend là.
Pourquoi c'est un beau film, Paul ?
C'est un chef-d'œuvre. C'est un beau film. Bah, il a été reconnu comme tel. C'est un beau film parce que il dit comment la relecture de l'Évangile et la remise en forme par ici un jeu scénique de la Passion peut être quelque chose qui redonne vie parce qu'on l'entend autrement. C'est l'actualisation de la parole de Dieu. Il cite beaucoup de passages d'Évangile et beaucoup de scènes de l'Évangile qui sont d'une certaine façon réactualisées aujourd'hui. C'est pas simplement une histoire du passé. Il se produit quelque chose ici et maintenant par l'écoute de la parole.
Oui, Marie, même question.
Ben, c'est la façon dont Denis Arcand construit son discours. Il n'épargne pas l'Église. Son propos n'est pas là. Néanmoins, il en fait donc. Il montre ce qu'elle est devenue au Québec et que. Il montre que cette institution n'est plus ce qu'elle était. Encore une fois, on est en 89, il faut bien le situer à l'époque. Mais elle reste, et il le décrit avec beaucoup d'éloquence, on parlait de la scène du métro, elle reste le repère de la misère humaine et de ceux qui ont encore besoin de croire en une force supérieure. Voilà, c'est ça qu'il montre et il le montre vraiment très très bien. Alors, ce qui est très fort aussi, c'est dans ce discours, c'est quand il montre la passion, on y est. C'est la passion, on les voit, et c'est plus que convaincant, on est là. Ils sont que 5 acteurs pour jouer tous les rôles, mais ils sont formidables. Et petit à petit, tous ces gens qui viennent deviennent les spectateurs que Jésus avait à l'époque. Et où il y a des touches d'humour, c'est que pour changer de moments dans la passion, il y a un gardien en uniforme qui dit bon ben maintenant vous marchez jusque là-bas. C'est-à-dire que on revient dans la réalité pour mieux se replonger dans ce que ces acteurs représentent. Et effectivement, ce qui est fort, c'est que petit à petit il a réussi en fait à montrer les gens qui suivent Jésus, qui veulent venir voir ce spectacle, c'est un peu ce qui se passait à l'époque. C'est que petit à petit, ce que Jésus déclenchait quand il était vivant, ça provoque la même chose de nos jours. Quoi.
Ça me fait penser à cet artiste qui avait fait un Jésus sur une chaise électrique à l'église de Saint-Eustache à Paris. C'est parfois le génie de... Ça avait énormément d'ailleurs
des
choqué.
Artistes, hein. Oui.
C'est le génie des artistes que de savoir réactualiser ou redire la vérité de certaines choses. On en a quand même évoqué des films sur Jésus et sur sa vie, sur sa passion, mais rarement des films comme ça originaux, c'est-à-dire en fait qu'ils sont rares. Ces récits un peu décalés
Traités de cette façon-là, oui, c'est rare. Hein. On a eu des films, de nombreux films, et depuis très longtemps, sur la passion du Christ, mais pas avec cette approche-là. Et cette approche-là qui vient d'une commande d'Église, mais qui subvertit un petit peu, enfin qui dépasse l'objet de la commande. C'est pas simplement pour l'actualiser, c'est pour la rendre parlante et percutante.
Eh bien, merci messieurs pour ces trois choix. On les rappelle, le Intouchable d'Éric Toledano et de
Olivier Nakache,
autant pour moi. Pierre Rabhi, Au nom de la Terre, film documentaire, Marie-Dominique Delsing et Jésus de Montréal de Denis Arcand. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.